Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Nous prenons la direction d'Abu Dhabi avec la 13e réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Quelles ont été les priorités et enjeux africains de cette rencontre décisive sur le commerce mondial? Nous en parlons longuement au cours de cette émission et vous entendrez aussi notre invité Idriss Lingé. Direction la Côte d'Ivoire, sur place, pas moins de 25 000 entreprises ont été créées en 2023. Des chiffres annoncés par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Notre correspondant à Abidjan, Hippolyte Dié, nous en donnera les détails. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, Abu Dhabi a accueilli la 13e conférence ministérielle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, une rencontre marquée encore une fois par de très fortes oppositions entre puissances économiques. C'était le cas entre l'Inde et les États-Unis, qui se sont livrés à un véritable bras de fer à Abu Dhabi. Un nouveau pays africain a rejoint l'OMC. Il s'agit de l'Union des Comores, dont je vous propose d'écouter son président, le président Assoumani Azali.
Avec l'adhésion à l'OMC, mon pays poursuivra ses objectifs de développement durable et d'éradication de la pauvreté, notamment en accélérant les investissements dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, le tourisme, l'environnement, le secteur maritime et l'économie numérique.
Coémergence, l'invité.
Nous avons le plaisir de retrouver Idriss Lingé, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée en économie et en finance. Et c'est pour parler toujours de cette 13e conférence de l'OMC qui s'est tenue à Abu Dhabi. Bonjour à vous Idriss Lingé et merci encore une fois d'accepter notre invitation sur Coémergence. Alors, la première question: quels ont été les enjeux africains de cette 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce?
Alors, il y a plusieurs enjeux. Déjà, l'impact des négociations sur les subventions à la pêche est considérable. Il faut qu'on y avance, particulièrement pour les pays africains dépendants de ce secteur vital pour leur sécurité alimentaire et économique. Ces discussions touchent directement à la survie des communautés côtières et à la pérennité des ressources halieutiques. Par ailleurs, le boom du commerce électronique en Afrique soulève des enjeux majeurs, notamment la position de certains pays africains contre ce qu'on appelle l'instauration d'un moratoire permanent sur la taxation des transactions numériques. Ce domaine est en pleine expansion. Il est crucial pour l'intégration économique et le développement du continent, mais en même temps, il faudrait que les règles permettent aux économies africaines de se développer. Un autre point, c'est l'insécurité alimentaire. C'est un défi critique. Les négociations portent sur des règles plus strictes contre les restrictions à l'exportation alimentaire. Ces mesures sont vitales pour les pays africains qui, malheureusement, dépendent encore des importations. Et cela souligne la nécessité de renforcer la résilience et l'autosuffisance alimentaire. Évidemment, beaucoup d'Africains travaillent même sur ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, enfin la souveraineté alimentaire. Mais il faudrait que les règles de l'OMC soient beaucoup plus ouvertes. En outre, les subventions et aides à l'exportation pour le coton et d'autres produits, notamment le cacao, sont sur la table. Et elles affectent directement les producteurs africains et leur accès aux marchés mondiaux. L'appel à l'action collective de l'OMC face aux incertitudes et tensions montre l'importance de la coopération internationale, spécialement pour l'Afrique où les conflits peuvent impacter négativement le commerce et la sécurité. Enfin, on ne va pas manquer de le rappeler, les dysfonctionnements de l'organe d'appel de l'OMC, influencés notamment par les positions américaines, représentent une préoccupation majeure pour l'Afrique. L'Afrique veut un système de résolution des différends qui est efficace et qui peut protéger ses intérêts commerciaux.
Alors Idriss Lingé, on sait que l'Union africaine a lancé la zone économique, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF, depuis bientôt 3 ans. Alors Idriss Lingé, qu'est-ce qui peut converger entre cette ZELECAF et les règles de l'OMC?
Alors, il faut dire que l'OMC peut et doit s'adapter à la ZELECAF, parce que déjà la ZELECAF est une initiative régionale, c'est une initiative nécessaire. Mais comment est-ce que l'OMC peut s'adapter à la ZELECAF? Elle peut déjà soutenir en quelque sorte l'intégration régionale et multilatérale plutôt, en reconnaissant l'impact de la ZELECAF sur la croissance économique et le développement des pays africains. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la ZELECAF, elle est là pour stimuler le commerce intra-africain qui, il faut le dire, n'a pas toujours fait l'objet d'une préoccupation majeure. Les commerces intra-régionaux, je ne pense pas qu'ils aient toujours fait l'objet d'une préoccupation majeure de la part de l'OMC, qui était davantage axée sur les différends beaucoup plus globaux des relations commerciales entre les pays. Donc aujourd'hui qu'on a des pays qui décident de fonctionner à l'intérieur d'un bloc, il faudrait donc que l'OMC puisse s'adapter pour s'ajuster, notamment sur les ambitions de ces organisations commerciales régionales en termes d'impact sur la croissance économique, mais aussi en termes d'impact de normes et procédures douanières. Parce qu'il faudrait quand même qu'on comprenne qu'il y a une règle fondamentale dans le cadre de l'OMC qu'on appelle les règles d'origine, qui fournit un cadre pour les douanes et qui pourrait d'une certaine manière être reprise par la ZELECAF ou alors d'être adaptée par la ZELECAF. Donc, ce seront là des questions qui vont faire l'objet de discussions futures entre l'Afrique et notamment cette organisation plus globale, l'OMC, sur la manière de mettre en place le commerce au niveau intra-régional. Et aussi, il faut noter, Omar, que les Africains ont d'autres types d'accords, soit des accords collectifs, soit des accords individuels. C'est le cas notamment des différents accords de partenariat économique signés par des communautés économiques ou alors par des pays individuellement et qui apportent aussi une distorsion à l'application des règles du commerce mondial. Donc ce sont toutes ces choses qu'il faudra prendre en compte, sur lesquelles il faut que l'Afrique fasse un plaidoyer dynamique, documenté, afin de pouvoir imposer ses propres enjeux commerciaux.
Une autre question qui s'impose, Idriss Lingé, c'est vu le nombre de pays africains, ou plutôt le nombre de pays, disons, émergents ou en développement qui sont à l'OMC, ils font la majorité, quelles sont, dans ce contexte, les propositions, quelles voies, quelles, disons, préoccupations peuvent être portées par l'Afrique dans la réforme de l'OMC, mais aussi de façon générale pour un commerce mondial plus équitable?
Alors, disons qu'il n'y a pas une proposition africaine, il y a davantage des propositions africaines, des propositions au niveau plus régional, notamment de l'Union africaine, des propositions parfois pour des sous-régions. On a des propositions de la CEMAC, l'UMOA, la CDAO, la East African Community, mais aussi des propositions par pays. Mais ce qui revient en permanence, c'est que les Africains demandent qu'on, effectivement, comme dans toutes les entités multilatérales, qu'il y ait une réforme de l'OMC qui veille à ce que on préserve les principes fondamentaux qui mettent l'accent sur le développement et non pas seulement sur la défense des intérêts corporatistes. L'autre chose aussi, c'est que les Africains estiment que l'organe d'appel qui est celui en charge de la résolution des différends au sein de l'OMC, et qui est jusque-là présenté comme un outil utile si les Africains ont des défis, ils demandent que l'organe d'appel puisse rapidement se mettre en place, mais aussi qu'il y ait une participation des pays en développement et des pays les moins avancés. Et enfin, comme je l'ai dit, il y a aujourd'hui des réformes qui sont menées par le bloc européen pour protéger leur marché et qui ne sont pas toujours très favorables aux pays africains ou qui demandent des coûts de mise en œuvre qui sont élevés alors que ces marchés ne sont pas prêts à parfois payer le prix qui est équivalent à la proportion des efforts à mettre en œuvre. Donc, grosso modo, les Africains proposent beaucoup de choses pour sortir l'OMC des critiques dont elle fait l'objet aujourd'hui.
Alors, on sait, Idriss Lingé, que de nombreux pays africains commencent à voir l'intérêt de cette ZELECAF que l'on évoquait à l'instant, mais aussi de leur positionnement sur le plan du commerce mondial, notamment en termes de chaîne logistique. On pense notamment à des pays comme le Maroc. On a vu comment la crise en mer Rouge a favorisé son secteur maritime. Justement, quel rôle pour des pays africains, à l'instar du Maroc, dans ce dispositif de l'OMC et du commerce mondial?
Alors, le rôle du Maroc est un tout petit peu complexe, hein, parce que le Maroc est un gros exportateur africain. Et il n'est pas qu'exportateur de matières premières. Le Maroc exporte des produits semi-finis. Et aussi, le Maroc joue un rôle dans, disons, plusieurs domaines, hein, notamment la question de la pêche. C'est une discussion constante pour le Maroc, qui est un grand acteur du domaine sur le continent. Mais aussi le Maroc est investisseur sur le reste du continent. Le Maroc est présent notamment dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne francophone où plusieurs de ses entreprises ont des filiales qui jouent un rôle majeur. Alors du coup, cette position du Maroc, et le Maroc est aussi utilisé comme un hub des investissements ou un hub du trade pour toucher l'Afrique. Donc, du coup, cette position du Maroc fait en sorte que parfois le royaume est en conflit de, je dirais pas de loyauté, mais en conflit de positionnement. En même temps, elle doit défendre des marchés qui sont le socle de son expansion économique, mais en même temps, elle doit répondre aux contraintes de ses partenaires, aussi bien européens que beaucoup plus mondiaux, chinois, américains, qui ont eux-mêmes leurs propres règles de déploiement du commerce mondial. Donc du coup, la position du Maroc est toujours celle de favoriser le consensus, mais évidemment le consensus est un choix qui fait que les discussions tirent de long en large, on ne parvient toujours pas à des résolutions concrètes ou alors à des résolutions qui nécessitent des applications qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Donc, du coup, bon, on peut comprendre, le Maroc ne défend pas que ça, une position de d'acheteur. Le Maroc défend aussi et surtout une position de vendeur en pleine expansion. Et évidemment, cela tient du rôle très important que le Royaume joue dans le commerce mondial.
Merci à vous, Idriss Lingé. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et au plaisir de vous retrouver dans nos prochains numéros.
Merci Omar Baldé de m'avoir accueilli, ainsi que l'agence ECOFIN sur tes antennes. Je serai très content de vous retrouver pour un autre panorama sur l'Afrique. Au revoir.
Zoom Express.
Quels sont les principaux secteurs attractifs pour les investissements en Afrique? Quelles sont les sous-régions où il faut aller investir dans le continent? au cours de cette année. François Conradi est avec nous. Bonjour François Conradi et merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Alors, tout d'abord, de façon générale, quelles sont les perspectives économiques du continent pour cette année 2024?
Donc, pour le consommateur, les perspectives sont meilleures qu'en 2023 et en 2022 parce que le choc inflationnaire qui a suivi l'invasion russe de l'Ukraine n'est plus d'actualité. Les prix sont en train de baisser. Nous voyons l'inflation à la baisse dans tous les pays du continent. Et bientôt, les banques centrales vont suivre avec des baisses de taux d'intérêt. La Mozambique a acté en premier une baisse la semaine dernière. Il faut dire que le taux chez eux était très élevé. Nous pensons que d'ici le milieu de l'année, d'autres banques centrales vont suivre, même si là, récemment, on a vu des hausses de la part des banques centrales au Kenya et au Malawi. Donc, tout cela est positif pour le consommateur. En même temps, les gouvernements sont à court d'argent. Il y en a beaucoup qui sont en train de parler au FMI. Et il y en a beaucoup qui ont commencé à hausser les impôts et à couper les subventions. Donc, encore une fois, au Kenya, nous avons vu ça acté dans la forme d'une nouvelle loi de finances avec de nouveaux impôts au milieu de l'année dernière, oui. Et il y a eu des émeutes qui ont suivi. Donc, le consommateur va être confronté à de nouveaux impôts. Mais ce qu'il y a aussi, et c'est cela qui est intéressant du point de vue investissement, vous avez parlé d'investissement, c'est qu'il y aura des sphères dans lesquelles les gouvernements n'auront plus la capacité de fournir les services que voudraient voir les citoyens. Donc, il pourrait y avoir dans l'éducation et la santé des opportunités pour le privé.
En tout cas, je pense que c'est intéressant comme tableau général. Alors, on va parler sous-région par sous-région. Commençons par l'Afrique du Nord. Quelles sont les perspectives économiques pour cette région et surtout, s'il y a investissement, quels sont les secteurs vers lesquels il est souhaité d'orienter les investisseurs?
Oui, donc l'Afrique du Nord est en train de bénéficier d'une prise de conscience de la part des multinationales qu'il est dangereux d'avoir des chaînes logistiques trop longues. Pendant le Covid, les interruptions de production en Chine ont vraiment compliqué la vie à beaucoup de sociétés qui sont désormais en train de s'implanter très activement, surtout en Égypte et au Maroc, pour être plus près des clients en Europe, et cela même pour les entreprises chinoises. Donc ça, c'est une bonne chose pour ces pays, bien sûr. On voit une création d'emplois, une valeur ajoutée et un effet sur le PIB. Dans ces entreprises, peut-être à plus petite échelle, la même dynamique peut présenter des opportunités pour l'investissement. Mm-hmm. À part ça, au Maroc, on s'inquiète bien sûr pour la précipitation et l'effet que ça va avoir sur l'agriculture et de par l'agriculture sur la consommation interne. Mm-hmm. Pour le reste de l'Afrique du Nord, donc en Égypte, une crise fiscale assez sérieuse. Donc le gouvernement est en train de négocier avec le FMI une hausse de son programme d'emprunt. Mais en même temps, juste hier, le président Sisi a annoncé des hausses de salaires et de pensions qui vont coûter 6 milliards de dollars par an. Donc, il y a une logique un peu ambiguë dans cela. Mm-hmm. Voilà pour l'Afrique du Nord, je pense.
Oui, alors certainement, on a d'autres cas comme la Tunisie, entre autres, mais on aura l'occasion d'y revenir certainement dans nos prochaines émissions. Alors, on doit parcourir toute l'Afrique. Alors, peut-être je voulais dire deux mots sur la Tunisie.
Oui, pour la Tunisie, donc, il y a des soucis politiques par rapport à l'investissement. Les gens hésitent à s'engager parce que donc il y a un manque de clarté sur la direction politique. On ne sait pas ce qui va se passer sur les subventions et en même temps, il y a des inefficacités dans le, comment le gouvernement fonctionne. Donc, je pense que pour des raisons politiques, les investisseurs en ce moment boudent la Tunisie.
En tout cas, c'est à suivre. Alors, on va aller peut-être beaucoup plus rapidement, région par région. On a le cas de l'Afrique de l'Ouest, François Conradi. Quelle est la météo qui s'y dégage sur le plan investissement et économie?
Alors, en Afrique de l'Ouest, encore une fois, il y a des thèmes politiques qui sont importants à regarder. Donc, avec les trois pays du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, qui parlent de sortir de la CEDEAO.
Qui sont déjà sortis, ils ont dit, nous officiellement.
Ils ont annoncé ça, oui, mais donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, alors, qu'est-ce qui va se passer après de ce qui est commerce, règles douanières, règles pour le mouvement, libre mouvement des personnes, tout cela reste à voir. Et donc, s'il y a un choc par rapport au commerce dans la région, cela peut affecter beaucoup d'entreprises. Mais à part cela, les perspectives sont assez positives. Donc, il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire et le Ghana qui s'engagent avec les FMI, avec les effets habituels, hein, donc baisse de dépenses et hausse des impôts ici et là. Mais pour l'instant, nous pensons que cela va se passer de manière graduelle et ça n'aura pas trop d'effet sur les entreprises. Et en même temps, il y a un environnement de prix international qui est moins
favorable.
L'inflation est à la baisse, ce qui est favorable pour la consommation et toutes les entreprises.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, François Conradi, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Vous êtes basé à Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci, Omar.
Destination Éco.
Direction la Côte d'Ivoire, sur place, pas moins de 25 000 entreprises ont été créées en 2023. Des chiffres annoncés par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Notre correspondant à Abidjan, Hippolyte Dié, nous en donnera les détails.
Plusieurs personnalités ainsi que des chefs d'entreprise et investisseurs ont pris part à cette rencontre du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'objectif était de présenter le bilan de l'année écoulée et mettre en lumière les perspectives pour l'année en cours. L'occasion a donc permis à la directrice générale de l'institution de préciser que les performances du guichet unique de formalité d'entreprise se sont améliorées avec la création de plus de 25 000 entreprises en 2023. Parlant de l'attraction des investissements, elle a souligné qu'à fin 2023, le portefeuille d'investissement compte 189 projets pour un montant de 5 333 milliards de francs CFA. Solange Amicha.
Depuis que j'ai pris les rênes du CPC il y a deux ans et demi, nous avons mobilisé plus de 35%, on a une progression de 35%. Donc on est passé de 742 milliards d'investissements en 2021 à 1000 milliards. Nous avons passé la barre des 1000 milliards en 2023, dont une progression de 35%. Donc c'est vraiment à mettre à l'actif de toutes les administrations qui nous ont accompagnés, mais aussi des investisseurs qui ont bien voulu nous suivre. Et ça prouve bien l'attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investisseurs qui souhaitent investir en Afrique.
Dans les perspectives de 2024, la première responsable du CPC a annoncé entre autres la dématérialisation de la soumission de demandes d'agrément, la rationalisation du code des investissements datant de 2018 et la délivrance de l'identifiant unique aux entreprises à l'intérieur du pays. La question du déploiement des services de l'institution est également un défi important pour ses responsables afin de faciliter la tâche aux usagers de certaines zones du pays. On écoute encore Solange Amicha.
On est capable de créer des entreprises en moins de 6 heures. Donc ça veut dire que ce trend va augmenter de plus en plus et ça c'est une bonne nouvelle pour les usagers. Et on a un accompagnement d'ailleurs du PCC de la Banque mondiale sur deux indicateurs. Un, le délai de création et deux, la satisfaction client. Ce qui veut dire que c'est un programme de 3 ans, hein, mais donc ça va vraiment améliorer de façon significative les services du guichet unique.
Il faut rappeler que pour le plan national de développement PND 2021-2025, le CPC devra mobiliser 6 400 milliards de francs CFA, soit 20% du montant global, à travers le code des investissements. à Abidjan. Hippolyte Dié pour Medi 1.
Merci à vous, Hippolyte Dié, correspondant de Medi 1 à Abidjan. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medi 1 Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medi 1 et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.